vous invite, si vous le voulez bien, à ouvrir les Bibles bleues qui sont à proximité de vous, ou bien votre propre Bible, au livre de la Genèse, au chapitre 29, c'est à la page 35 dans les Bibles bleues. Genèse chapitre 29, à partir du verset 31, et je lirai jusqu'au chapitre 30, verset 34. Jusqu'au verset 24, pardon. Donc chapitre 29, verset 31, jusqu'au chapitre 30, verset 24. Page 35 dans les Bibles bleues. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation, et désormais mon mari m'aimera ». Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi car je lui ai donné trois fils. » C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, « Cette fois, je célébrerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs !» La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Elle dit, « Voici ma servante, Bila, et des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Elle lui donna pour femme sa servante Bila et Jacob eut des relations avec elle. Bila tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il m'a même écouté et m'a accordé un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bila, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. » Et elle l'appela Nephtali. Voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, Léa prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» et elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, donna un deuxième fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse !» Oui, les femmes me diront heureuse. Et elle l'appela Aser. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors à Léa, « Donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa. Elle tomba enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela Issachar. Léa tomba encore enceinte et donna un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi car je lui ai donné six fils. » Et elle l'appela Zabulon. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, « Dieu a enlevé ma honte. » Et elle l'appela Joseph en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Vous pensiez que vous aviez une famille dysfonctionnelle ou compliquée. Vous n'avez rien vu par comparaison avec la famille de Jacob. Après plusieurs semaines de pause, nous revenons à une série de messages sur l'histoire de ce patriarche d'Israël, fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham. On a déjà vu, à vrai dire, des choses assez étonnantes dans cette famille, mais sans doute que le récit d'aujourd'hui remporte la palme. Ce texte nous montre une immense pagaille humaine, pleine de souffrances, de coups bas, de petites et de grandes méchancetés, de désordre. Nous allons essayer de discerner derrière ce drame humain l'action à la fois patiente et souveraine de Dieu, qui trace un chemin dans cette souffrance et pour bénir ceux qu'il a choisi d'aimer malgré tout. On va y réfléchir en trois temps, deux souffrances, deux jalousies deux bénédictions, deux souffrances d'abord. Au cœur de ce texte, donc, on fait face à deux souffrances intimes. D'abord, la souffrance d'une femme qui sait qu'elle n'est pas aimée de son mari, ou en tout cas pas comme l'est sa rivale. Par ailleurs, la souffrance d'une autre femme qui voit tous ses projets de vie, ce sur quoi elle fondait sa dignité, ses espoirs, s'écraser sur le drame de son infertilité. Alors avant d'aller plus loin, il convient de rappeler brièvement comment on en est arrivé là. Jacob est l'héritier des promesses faites d'abord par Dieu à son père Abraham, et puis renouvelées à son grand-père Abraham, puis renouvelées à son père Isaac, et renouvelées également à l'égard de Jacob, donc le petit-fils. Mais suite à un grave conflit avec son frère, donc déjà un problème de famille, Jacob a dû fuir le pays de Canaan, qui deviendra plus tard Israël, pour aller vers une région qui s'appelait à l'époque Padan Aram, qui correspond à peu près à la région frontalière entre la Turquie et la Syrie aujourd'hui, une région où ces jours-ci, il vaut mieux ne pas trop être. À l'époque, c'était, semble-t-il, un peu plus calme. Et dans cet exil, Jacob va retrouver une partie de sa famille élargie, et notamment son oncle Laban. Et là, il va se marier, non pas avec une femme, mais avec deux sœurs, Léa et Rachel. La polygamie était tolérée à l'époque, même s'il est intéressant de voir que presque toujours, lorsque l'Ancien Testament la mentionne, c'est pour montrer que ça se passe mal, entre autres. Et c'est notoirement le cas dans ce récit. En fait, au crédit, si l'on veut, de Jacob, il ne désirait, lui, n'épouser qu'une seule des deux, Rachel, la plus jeune. Mais son beau-père, dans un récit assez connu, lui a imposé d'épouser également l'aînée, Léa. Dès lors, on n'est pas surpris que ce qui suit soit un récit de souffrance. Les versets qui précèdent montrent que dès la première nuit passée avec Léa, Jacob exprime non pas de l'amour, de la tendresse, mais de la colère et de l'amertume. Vous imaginez le calvaire qu'a dû être la vie de Léa. Et on peut un peu imaginer le ton froid de Jacob lorsqu'il s'adresse à elle, les regards qu'il pose sur sa sœur, mais pas sur elle, ou pas les mêmes regards. Un devoir conjugal qu'il accomplit par dépit, parce qu'il fallait bien avoir une descendance. La souffrance de Léa a dû être terrible. Et on la discerne sans peine entre les lignes du texte, dans son insistance à appeler Jacob « mon mari » 6 fois, verset 32, verset 34, chapitre 30, verset 14, verset 18, verset 20. « Mon mari, mon mari ». Ou dans ses cris du cœur « désormais mon mari m'aimera », verset 32. « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi », verset 34. Nous avons tant besoin d'être aimés et appréciés que le fait d'être au contraire rejeté, que ce soit ouvertement ou subtilement, et en plus rejeté par la personne dont on attend le plus, l'amour, c'est sans doute l'une des pires souffrances qui soit. Et c'est une souffrance qui a quelque chose de tout à fait intemporel, qui a inspiré tant de poèmes, d'œuvres diverses, jusqu'à Adèle, la chanteuse, qui s'écrit « Je fermerai mes yeux pour ne pas voir cet amour que tu ne ressens pas quand tu es avec moi. » C'est à peu près ce qu'aurait pu dire Léa. Mais alors qu'on serait tenté de comparer le malheur de Léa au bonheur sentimental de sa sœur, Rachel, on découvre que Rachel, elle aussi, vit un drame qui nous est annoncé sobrement dès le verset 31. Rachel était stérile. Une douleur discrète, tabou, souvent, aujourd'hui encore, qui touche un couple au cœur même de ses aspirations. Et aujourd'hui encore, l'infertilité est une épreuve émotionnelle et sociale. Mais à cette époque patriarcale, elle l'était plus encore, dans un sens, parce que la maternité était généralement considérée comme la vocation essentielle, voire unique, d'une femme, et d'autre part parce que l'honneur de la famille et le statut de la famille dépendaient de sa descendance. Et alors qu'au début du texte, l'accent est mis plutôt sur la douleur de Léa, celle de Rachel éclate en plein jour, au verset 1 du chapitre 30. « Donne-moi des enfants ou je meurs !» On mesure son désespoir. On peut supposer que Rachel avait entendu par Jacob les promesses qui avaient été faites à la famille depuis Abraham. Promesses, entre autres, d'une descendance nombreuse. Donc Rachel pouvait se demander si elle était exclue de ces promesses, si elle n'était finalement pas l'épouse que Dieu avait voulu pour Jacob, si elle n'entrait pas dans les plans de Dieu. Deux souffrances donc. Deux souffrances auxquelles peut-être certains parmi nous peuvent, dans une certaine mesure, s'identifier. Et c'est à travers ces souffrances que Dieu va tracer un chemin et montrer sa bonté. On y reviendra. Une chose que nous pouvons nous demander en passant, c'est si notre Église est un lieu, une communauté, où peuvent s'exprimer de telles souffrances. Si c'est un lieu où les questions difficiles de la vie et de la foi peuvent être exprimées librement, sans avoir à toujours être dans le faux semblant, dans des conversations informelles, auprès des responsables que nous sommes. En tout cas, c'est notre désir. Dans ce texte, on voit que Léa et Rachel gardent pour elles, d'abord, cette souffrance, mais ensuite, elles vont, en quelque sorte, les confronter l'une à l'autre dans une terrible escalade de jalousie. Ce qui nous amène à ce deuxième point, de jalousie. Dans sa célèbre pièce « Othello », Shakespeare montre comment le poison de la jalousie, qu'il appelle le monstre aux yeux verts, s'insinue dans les relations humaines et détruit ces relations, et même les personnes elles-mêmes. Un léger questionnement devient un doute, qui devient une conviction, qui devient une obsession, et qui conduit finalement au drame. Léa et Rachel, deux sœurs, on peut supposer qu'elles étaient proches au départ, on n'en sait rien, c'est vrai. Elles se retrouvent dans cette terrible situation où chacune veut ce qu'a l'autre. Léa veut être aimée comme Rachel. Rachel veut avoir des enfants comme Léa. Et chacune répand son amertume. Rachel s'écrie, comme on l'a vu à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs », verset 1 du chapitre 30. Alors Jacob répond au verset 2 qu'il n'est pas Dieu et qu'il n'y peut rien. Dans l'absolu, oui, c'est vrai. On peut quand même constater qu'il ne se comporte pas très dignement. Au lieu d'écouter sa femme et de chercher à l'encourager, il se met en colère contre elle. Verset 2, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Comme si elle avait besoin de ça. Et tout au long du récit, Jacob est quasi absent, passif dans le drame que vivent les deux femmes. Ce sont elles qui s'expriment tout au long du récit, ce sont elles qui prennent des initiatives, qui vont jusqu'à décider avec qui Jacob va passer la nuit, qui se chargent par exemple de nommer les enfants, semble-t-il à elles seules. Jacob est bien passif. Léa exprime elle aussi sa souffrance, chapitre 30, verset 15. « Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Alors, on reviendra sur cette histoire de mandragores. Mais d'abord, si on revient au début du récit, contrairement à Rachel, Léa est fertile. Le texte nous dit que Dieu, voyant qu'elle n'était pas aimée, est intervenu pour lui permettre d'avoir des enfants. Mieux encore, elle a des fils, ce qui à l'époque représentait une protection en fin de vie notamment et un avenir assuré pour la famille. Et elle donne naissance donc à une première série de quatre fils, Ruben, Siméon, Lévi, Judas. On note que dans sa douleur intime d'épouse non aimée, elle place tout de même, au moins dans une certaine mesure, sa confiance en Dieu. On le voit dans les noms qu'elle donne à ses fils, qui expriment sa confiance et son espérance en Dieu. Mais la vie reste difficile pour Léa. Et là encore, comme souvent dans l'Ancien Testament, il faut un peu lire entre les lignes, sans doute. Le verset 35 nous dit que Léa cessa d'avoir des enfants. Pourtant, la suite du récit montre qu'elle en aura à nouveau, notamment après avoir obtenu que Jacob puisse à nouveau venir vers elle. Il semble donc qu'après quatre fils, Jacob ait décidé de délaisser Léa, lui préférant sans doute la servante de Rachel, Bilha. Comme c'était parfois la coutume à l'époque, comme on l'a vu par exemple dans la vie d'Abraham, Rachel ne pouvant pas avoir d'enfant elle-même, va en quelque sorte choisir une mère porteuse. Encore un drame qui s'ajoute. Alors le texte n'en dit pas plus, mais on peut se demander quand même qu'a dû ressentir cette Bilha, qui tombe enceinte après s'être unie à Jacob, mais qui voit ensuite Rachel être considérée comme la mère de l'enfant. Et Léa, se voyant brusquement délaissée, va elle-même rentrer dans la surenchère et présenter à Jacob sa propre servante, Zilpa. Et là, on a du mal à prendre Léa au sérieux lorsqu'elle dit « Quel bonheur !» verset 11. Ou encore « Que je suis heureuse !» Oui, les femmes me diront heureuse, verset 13. Comme s'il fallait s'en convaincre. Parce que de bonheur, justement, il n'en reste pas beaucoup à ce stade de l'histoire. Et au verset 14 et 16, les deux femmes vont se faire face à face avec leur désespoir et s'engager dans un marché pathétique. Ruben, fils aîné de Léa, lui apporte un jour des mandragores, un fruit qui était associé par superstition à la fertilité. Et Léa, submergée par son désir d'enfant, supplie Léa de lui céder ses mandragores. Tout est bon à prendre si ça peut faire quelque chose. Et en échange, elle lui propose de laisser Jacob passer la nuit avec elle. Là, en termes de relations familiales malsaines, on touche le fond. Léa est lucide, d'ailleurs, sur la réalité des choses. Elle dit à Jacob qu'elle l'a eu en salaire. Littéralement, dans le texte hébreu, elle l'a embauché ou loué au prix des mandragores, verset 16. Or, cette sombre opération est un fiasco complet. Alors certes, on peut dire que Léa ne s'en tire pas si mal puisqu'elle va à nouveau avoir des enfants, mais elle, ce qu'elle voulait, c'était d'être aimée par Jacob. Rien n'indique que ce soit le cas. La suite de l'histoire de Jacob va plutôt montrer qu'il a continué à considérer Rachel comme sa vraie épouse, ou en tout cas sa préférée. Léa espérait être aimée, elle ne semble pas y être parvenue. Mais de son côté, Rachel a beau manger les mandragores, c'est Léa, une fois de plus, qui va avoir 3 enfants. On ne peut pas passer à côté de l'ironie du texte ici. Et quand Rachel voit enfin la réalisation de son rêve, ce n'est pas grâce au mandragore, mais parce que le Seigneur est intervenu, verset 22. Alors, certains diront peut-être, bon, c'est une histoire intéressante, mais quel intérêt pour le narrateur de la Genèse de passer tant de temps à nous décrire cette histoire, et cette histoire de jalousie entre ces deux femmes. La clé est sans doute de voir qui sont les fils qui naissent. De se rappeler que les 12 fils qui naissent dans ce récit sont les fondateurs des 12 tribus d'Israël. Et c'est comme si le narrateur voulait nous montrer dans un sens que c'était mal parti dès le début. Dès le début, les relations dans cette famille que Dieu a choisie sont marquées par la frustration, l'épreuve, les rivalités, voire la haine. Et de fait, dans l'Ancien Testament, on voit combien l'histoire d'Israël est marquée par des divisions incessantes. Dès la génération suivante, d'ailleurs, les fils de Léa et des 2 servantes vont être jaloux de Joseph, le fils de Rachel. L'histoire se répète. Et pourtant, Dieu fera grâce encore et encore et continuera de mener à bien ses projets au sein de cette famille et de ce peuple. Et de leur côté, malgré leurs errances, Léa et Rachel vont être amenés tout de même à reconnaître la main souveraine de Dieu dans leurs circonstances. Léa va pouvoir dire « L'Éternel a vu mon humiliation » au début du texte, chapitre 29, verset 32. Rachel pourra dire « Dieu a enlevé ma honte », chapitre 30, verset 23. Ne serait-ce qu'un instant, elles ont oublié de regarder à ce qu'il advenait à l'autre pour reconnaître dans ce qu'elles vivaient, pour trouver leur place dans les projets de Dieu et reconnaître son œuvre dans leur vie. Il n'y a pas de meilleur remède, en fait, contre la jalousie et l'amertume que de trouver sa place dans les projets de Dieu. Et dans cette bénédiction que Dieu a accordée à chacune des 2 sœurs, il y a une image de la grâce qu'il a envers et contre tout, pour ceux qu'il a choisi d'aimer. On arrive au 3e et dernier temps, 2 bénédictions. Dans un livre écrit en 1996, traduit il y a quelques années en français, sous le titre « Une grâce déguisée », l'auteur Jerry Sitzer parle d'un terrible drame qu'il a vécu. Il a perdu dans un accident de voiture sa mère, sa femme et sa fille. Et quelques années après ce drame tragique, il a écrit ce livre de témoignages dans lequel il explique comment il a pu survivre émotionnellement et spirituellement malgré cette souffrance. Et dans ce livre, il parle d'une image qui lui est venue, semble-t-il en rêve, et qui a été décisive dans son processus de deuil. Dans ce rêve, dit-il, il voyait le soleil se coucher à l'ouest et donc il courait pour essayer d'attraper le soleil couchant, mais il ne parvenait jamais à l'attraper. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que la manière de retrouver le soleil n'était pas de continuer à le pourchasser alors qu'il se couchait. On peut supposer que ce soleil couchant représente la vie qu'il avait auparavant, qu'il avait perdue. Mais que pour retrouver le soleil, il lui fallait courir dans l'autre direction, en pleine obscurité, vers l'est, pour être là quand le soleil se lèverait à nouveau. Une belle image qui nous dit quelque chose, je crois, de la manière dont Dieu intervient dans l'épreuve. Il nous apporte souvent sa délivrance, non pas en ôtant la souffrance, mais en faisant naître de cette souffrance même une nouvelle source de bénédiction. Or, notre texte commence et se termine par la bénédiction, par la délivrance. Verset 31, « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il lui permit d'avoir des enfants. » Verset 22 du chapitre suivant, « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. On a cette même expression au début et à la fin. Qui est ce Dieu, ce Créateur, qui pose un regard sur deux femmes parmi, à l'époque, des centaines de millions au moins, et qui accorde à chacune la grâce précise, sur mesure, dont elle a besoin pour continuer à avancer? C'est le Dieu de la Bible. Un Dieu à la fois tout-puissant, capable par une seule décision de sa volonté de rendre une femme féconde, et un Dieu plein de douceur, attentif aux circonstances intimes de chacun. Léa, mal aimée par Jacob, est aimée de Dieu, et elle va trouver sa place dans les projets de Dieu. Elle va donner naissance à 6 des 12 patriarches, dont Judas, ancêtre du Messie, et Lévi, tribu que Dieu mettra à part pour être ses adorateurs, ses prêtres auprès du peuple. Le chemin de Léa n'a pas été facile. Elle n'a pas vécu tout ce qu'elle aurait voulu vivre. Mais elle a trouvé sa place pour toujours dans les projets de Dieu. Et regardez, 4000 ans plus tard, on parle encore d'elle. Mais Dieu n'a pas non plus oublié Rachel, femme aimée par son époux, mais humiliée par sa stérilité. Ce ne sont pas les mandragores qui lui permettent d'obtenir le désir de son cœur, c'est l'action souveraine de Dieu. Verset 22, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Le chemin de Rachel ne sera pas facile non plus. Elle donne naissance à un fils, Joseph. Quelques années plus tard, après pas mal d'années, elle va donner naissance à son second fils, Benjamin. C'est au chapitre 35 qu'on voit cela, mais elle ne survit pas à l'accouchement. Son histoire donc est empreinte de tristesse jusqu'au bout. Mais Rachel a elle aussi trouvé sa place dans le plan de Dieu. Son fils, Joseph, va délivrer sa famille entière de la famine, devient un homme de haut rang en Égypte. Son fils Benjamin sera, entre autres choses, on le dit rarement, mais le très 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 lointain ancêtre de l'apôtre Paul, de la tribu de Benjamin. Et puis des siècles après la mort de Rachel, le prophète Jérémie parle d'elle en faisant d'elle la figure emblématique du peuple entier d'Israël. Soumise à l'épreuve, mais ensuite délivrée par Dieu. Jérémie 31, ce chapitre a déjà été cité d'ailleurs ce matin, mais pas tout à fait au même endroit. Jérémie 31, verset 15, un texte que Matthieu cite dans son évangile et qu'on cite souvent à Noël. « Voici ce que dit l'Éternel, on a entendu des cris à Rama, des lamentations et des pleurs amers. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée à propos de ses enfants parce qu'ils ne sont plus là. » Mais le ton change dès le verset suivant. Voici ce que dit l'Éternel, retiens tes pleurs ainsi que les larmes de tes yeux, car il y aura une compensation pour ta peine, déclare l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Tes enfants. Pas seulement Joseph et Benjamin, mais les Israélites. Et en définitive, si on a bien saisi la portée de cette prophétie de Jérémie, les croyants de tous les âges, dans un sens, nous sommes les enfants de Rachel. Léa, la femme mal aimée par son mari, a été aimée par le Créateur de l'univers. Rachel, la femme stérile, est devenue la mère de tous les croyants. C'est comme ça avec Dieu, il ne fait pas les choses à moitié. Or le Dieu de Léa et de Rachel est le Dieu et Père de Jésus-Christ, celui qui a tout donné jusqu'à l'épreuve impensable de la croix, pour que nos épreuves trouvent toutes et toujours, ou plutôt qu'elles trouvent toujours leur issue ultime dans sa délivrance. Quelles que soient les épreuves, aussi dures et réelles soient-elles que nous pouvons traverser, et que jamais la Bible ne minimise d'ailleurs, l'issue ultime pour tous ceux que Dieu a choisi d'aimer, pour tous ceux qui, par la foi, sont entrés dans ses projets, l'issue ultime, c'est la délivrance et c'est la bénédiction. Et c'est ce Dieu qui nous invite, sur la base de ses promesses, promesses tellement nombreuses dans la Bible et qui culminent en Jésus-Christ, c'est ce Dieu qui nous invite aujourd'hui à sortir de l'amertume, de la jalousie, du doute, pour trouver chacun notre place dans les projets de Dieu. Et on voit que Dieu fait du sur-mesure. Il connaît nos circonstances. Il nous permettra de trouver notre place selon nos circonstances. Et cette place, nous la trouverons dans l'histoire la plus glorieuse entre toutes, l'histoire de l'amour de Dieu, l'histoire d'une vie qui a toujours le dernier mot qui emporte tout sur son passage.